Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Salut à tous, c'est Studio 404 numéro 8. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie de mes 4 chroniqueurs. On vous rappelle Studio 404, 4 sujets importants, 4 chroniqueurs qui se donnent beaucoup d'importance et qui sont actuellement morts de rire. Je vous les présente tout de suite. Donc il y en a qui se gratte la tête et qui a fini sa chronique il y a 20 minutes. C'est Daz, comme d'habitude. Comment ça va, Daz ?
Salut, salut. Ça va très très bien.
Voilà, on l'appelle le Halo Streaming de la chronique, là, puisqu'en général, il...
Ah ouais, Halo Share, Halo voilà. Sharing.
Halo Streaming, donc au bout de 10 minutes de chronique, il faut attendre une demi-heure pour qu'il reprenne la parole, si tu payes pas. À côté de lui, légèrement alcoolisé, mais vous avez déjà entendu un peu le rendu de la demoiselle lorsqu'elle est imbibée. C'est Mélissa. Ça va bien, Mélissa ?
J'ai ma cristalline, tout va bien.
C'est quoi, c'est une marque de vodka, c'est...
la réputation. Source Quelle belle réputation.
Donc Mélissa est bien. En face, très sérieux, parce que c'est un peu le faillot de l'équipe.
Non, c'est pas lui.
C'est Fibre.
Bonjour, c'est Fibre Tigre, le faillot.
Alors le faillot, parce que là, on est un peu en mode jeudi confession, on est un peu en mode coulisses, on est un peu en mode behind the scenes. Hein. C'est lui qui rend toujours ses chroniques en premier, c'est lui qui fait les comptes rendus de réunion, c'est lui qui dit qu'est-ce qu'on fait.
C'est lui qui arrive en premier au studio.
C'est... Ouais. Et c'est moi aussi qui repasse les chemises de l'âme.
Voilà. Quel faillot. Et il porte des lunettes comme Agnan, le faillot de Petit-Nic. Voilà. À côté de toi, c'est le cancre du mois, puisque c'est le dernier arrivé ce soir pour l'enregistrement, donc il est obligé de heurter les tweets de Christine Boutin jusqu'au mois de juin.
Je viens de commencer d'ailleurs, à l'instant.
C'est commencé. Voilà. Voilà. C'est Sylvain. Ça va bien, à part le fait que tu doives salir ta timeline?
Ouais, ça va. Écoute, je me sens un petit peu souillé, bien sûr, mais bon, c'est le gage, hein, je m'y prête, il n'y a pas de problème.
Ce soir, vous quatre, vous allez nous parler de 4 sujets passionnants, obscurs, pointus ou très généralistes, mais avec toujours la touche 404. Donc, beaucoup de bonne humeur, d'infos et de stats, hein. On va parler de sites moches, on va parler d'appli jolie, on va parler de rédac chef qui s'appellerait Google, on va parler de Libre qui voudrait que ça marche mais ça marche pas, hein, c'est un peu la friend zone, et on va parler de la génération SAV. On se retrouve tout de suite, mais d'abord une première FAQ, vos FAQ.
FAQ.
Première FAQ qu'on est venu piocher sur Twitter, parce que Twitter c'est un réseau social où on peut interagir avec nos followers, c'est l'avenir. On vous a demandé donc de nous laisser un peu les questions qui vous démangent. Voici une première qui vient de Grégory Ferenbach, qui habite peut-être dans l'East Coast de la France, je pense, avec un nom comme ça. Il nous demande...
East Coast.
Cite... Cette émission va être dure à enregistrer. Si demain, Internet est supprimé définitivement. Et là, je vois que plus personne ne sourit parce que c'est dramatique. Vous faites quoi de vos journées? Ah, Fibre.
J'appuie sur F5.
tu appuieras tel le petit Wally seul,
non,
comme ça,
plus
dans le vide.
Plus sérieusement, en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent ordinateur et
non,
et Internet.
Non, s'il n'y a plus
ouais,
Internet.
Voilà ça. S'il n'y a plus Internet, il reste quand même l'ordinateur, donc on peut utiliser Word.
Donc voilà. Fibre utilisera Word jusqu'à la fin de ses jours. C'est une vision des choses qui est plutôt sympathique. Daz.
Non, bah, s'il n'y a plus Internet, je regarderai la télévision.
Ah, tu reviendras tes premiers amours.
Ouais.
Il
n'y a plus de Minitel. Il y aura le Minitel ou pas ?
Il n'y a plus d'Eric. Hein.
Ouais, mais c'est pas grave, c'était un nazi. Hop là,
voilà.
Ça y est, c'est fait.
À peine 5 minutes.
Nickel. Ouais, petit pour moi, la télé. Donc, ok, tu regarderas la télé en trollant ce qui se passe à la télé. Mélissa.
Je lirai des livres en papier.
Des livres en papier ?
Tout à fait. Ça existe encore.
C'est pas très écolo, hein.
Ça va faire bizarre comme sensation dans les mains, non? Ça doit fatiguer les doigts.
Je suis allée chez Virgin, il y en a encore. Vous pouvez y aller.
ils ont tout rasé sauf les livres en papier.
En fait, il y a le prix unique du livre, donc ils peuvent pas les brader.
C'est vrai. Sylvain, que ferais-tu si tu n'avais plus d'Internet? Si le monde n'avait plus d'Internet.
Je me sentirais extrêmement seul, donc je pense que j'ouvrirais un bar. Et j'aurai beaucoup de clients.
Qui sortiraient tous très seuls.
Exactement.
Ça. On appellerait quoi ça? Le dernier bar avant la fin du monde?
Non, on trouvera un truc un petit peu plus marrant. Non, mais en termes de nom, je veux dire. Ah non, ça va, j'ai jamais mis les pieds, j'en sais rien.
Plutôt après la fin du monde.
Ouais, après la fin du monde. Merci beaucoup, messieurs, dames.
Sujet numéro 1.
Site moche.
Appli jolie.
Depuis quand nos critères ont-ils changé?
Première chronique et premier sujet qui pose une question importante. Sommes-nous devenus des midinettes avec les smartphones? Sommes-nous devenus coquets? Sommes-nous devenus un petit peu futiles? Et surtout, pourquoi les applications qui cartonnent sur smartphone sont d'abord des applications jolies, avant d'être peut-être utiles ou complètes, alors que, avant, sur Internet, l'historique des startups, un peu successful, étaient des sites qui étaient globalement laids, mais qui apportaient quelque chose? C'est une question importante sur laquelle s'est penché Sylvain Palais. Est-ce qu'il y aura des imitations, Sylvain, dans cette chronique ou pas?
Il n'y en aura pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé Startful.
Startful.
Ouais, Startful. Bon. Startful là et tout, c'est cool.
Alors Sylvain, tu t'es penché sur ces sites laids, ces applis jolies?
Oui, voilà, exactement. Hein, bande de coquets que vous êtes. Fait indéniable, Le Bon Coin est le site le plus horrible du monde. Qui levez la main ou taisez-vous jamais.
Voilà. Je valide.
Reddit a une ergonomie complètement incompréhensible pour le Kidam.
On valide.
Et je vous le rappelle, hein, à titre informatif, Wikipédia et Craigslist sont codés avec des balises stable. Hein, donc c'est l'équivalent en fait pour un développeur de donner la vie avec un forceps rouillé et un imbibé de pu quand on est sage-femme. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Rappelez-vous MySpace aussi, temple du bon goût, ou même le bon vieux Twitter de 2011 avant le petit coup de redesign qui était assez horrible.
Ouais.
Donc vous avez bien les interfaces dans votre tête, de petits internautes coquets. Et ben maintenant écoutez, Le Bon Coin, c'est le sixième site le plus visité en France.
Ah quand même.
C'est même le deuxième site français le plus visité en France, après Orange.fr.
Qui est un site affreux d'ailleurs.
Oui, un très beau portail. Reddit est un des sites communautaires le plus visité également dans le monde. Hein. Craigslist, 9e site le plus visité aux US. Et Wikipédia, 6e site le plus visité au monde. Donc j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Pourquoi?
Parce que c'est quand même laid.
Ces sites aussi moches ont autant de succès.
Ah oui.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Et c'est même pas une question d'époque ou de mode où à l'époque on les a fait, voilà, c'était la mode. Parce que Le Bon Coin, il était créé en 2006. 2006, c'est comme si moi je me ramenais à Roland Garros, là, avec une raquette de tennis en bois et des cordages en boyau de chat pour taper la balle avec Federer, quoi. C'est un petit peu l'équivalent. C'est Daz qui me souffle les métaphores.
Très joli, très joli.
Alors, un nouveau mystère paranormal s'ajoute au triangle des Bermudes et à la disparition de l'Atlantide. C'est, qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui kiffent les sites moches? Alors peut-être qu'ils portent des coupes mulets, on n'a pas les stats, mais toujours est-il qu'ils sont plus nombreux que nous et vous, par vous j'entends des gros snobs, et qu'ils ne semblent porter aucune importance à joindre l'agréable à l'utile. Ils s'en battent les couilles, complètement. Hashtag les vrais gens, tu vois. Donc j'imagine bien...
Hashtag les couilles.
Hashtag les couilles. J'imagine bien un formulaire en pop-up sur la home du Bon Coin, pour ou contre une refonte en HTML5 responsive grid layout, auquel José répondrait en tapant avec ses deux index « machine à laver Arcachon ». Le Bon Coin est super laid. Il y avait une petite imitation. Le Bon Coin est super laid, il est anti-ergonomique, mais il est super utile, et l'utilisateur du Bon Coin, il aime bien avoir ses petites habitudes. Pour Reddit ou 4chan, l'interface, si elle est archaïque également, c'est pour une autre raison. C'est une barrière anti-bolosse.
Ah oui.
C'est comme le langage, les petits codes qu'ils utilisent sur ce genre de site. Ça sert de tamis pour trier les newbies, les petits nouveaux.
Les newsfag.
Voilà. Et en design, on dit que la forme doit suivre la fonction et ça se vérifie bien ici. Mais, comme tu en parlais, Lam, il y a un nouveau paradoxe qui arrive. C'est que moi, je me rends compte qu'on aime tous installer des petites applications sur nos smartphones avec des petites animations un peu fofolles, des designs minimalistes de malade mental, des petites animations genre swipe et glisser, triple loot, genre Nelson Montfort pète un câble et tout. Et j'ai un exemple, d'ailleurs, Lam nous montrait à la dernière réunion une appli de météo.
Elle est tellement mignonne.
Non, mais elle est super belle. Elle est super belle, elle est magnifique. Mais elle te donne le temps qu'il fait maintenant à la position GPS actuelle de ton smartphone.
Oui.
Ça sert à quoi?
Je peux pas se jaler.
C'est si jamais t'as pas de fenêtre, en fait.
C'est ça. C'est si mais elle est tellement belle.
Voilà.
C'est un peu très utile, le chaton, oui, mais c'est des applications météo, quand même.
C'est ça, c'est un peu le chaton mignon. Et c'est comme toutes ces applications, genre Paper, Sparrow. Ou même les apps de to-do list minimalistes que vous allez utiliser deux jours avant de les oublier.
Designer, et d'en tester une autre. J'avais oublié celle-là, elle est magnifique.
Et il suffit de regarder les top 20 des applications, hein, à part des jeux, par exemple sur Android, à part les jeux qui trustent un petit peu les premières places, c'est que des applis pour redesigner des nouveaux launchers, des widgets, etc. pour rendre les smartphones super beaux, mais du coup super lents, qui défoncent la batterie en une journée.
Pour rendre Android super beau, j'insiste.
Oui. Et si le web est mort, comme on dit, et que l'avenir est aux applications, Alors ça veut dire qu'on est tous en train de devenir des gros snobs de l'interface et qu'on privilégie la forme au fond. Vous aurez atteint le point de non-retour, à mon avis, quand, lorsqu'on vous proposera d'aller sur le bon coin, vous répondrez « Lol man, le bon coin, mais c'est trop laid, je préfère utiliser cette toute nouvelle appli qui me montre où sont mes objets en réalité augmentée, c'est trop posé !» Parce que dans le futur, on parlera tous comme Swagman, je vous préviens. Donc ma petite théorie, moi, dans ce glissement des perceptions vis-à-vis du service, c'est qu'on a changé de relation. Par rapport à l'interface, le jour où on a changé d'objet, les applications sur nos smartphones, c'est quasiment la seule façon de le rendre unique. Hein, d'avoir un iPhone différent de l'autre, il n'y a pas 36 000 façons. Donc on télécharge pas juste des applis, on les possède, elles reflètent notre personnalité. Et de la même façon qu'on ne veut pas avoir un meuble moche dans son salon, il est hors de question d'installer une appli dégueu sur son smartphone.
Ah.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Répé à ça.
Répé à ça.
Mais on a tous des applis moches.
Alors, on a tous
on
des applis moches.
Parle pour toi.
Non.
Non. Moi, je suis assez d'accord avec Sylvain, c'est-à-dire qu'à un moment, j'en étais même à classer mes icônes.
Par
couleur, pour faire un sort d'effet colorimétrique.
Il y a
mes icônes bleues, mes icônes jaunes, mes icônes grises, etc. Mais effectivement, enfin, personnellement, je plaide coupable. Est-ce que vous plaidez un peu coupable d'avoir des smartphones et surtout des applications, déjà parce qu'elles sont mignonnes?
Oui.
Et jolies.
Oui. Mais moi, en fait, je suis naïf. Moi, je pense qu'elles sont mignonnes et elles sont aussi utiles. Et en fait, non. Mais ça, tu le sais qu'après. Et sur iOS, tu peux pas tester les applis pour te faire rembourser tes 89 centimes. Et
ouais.
Donc, t'es niqué.
Donc, tu te retrouves avec, comme tu disais, plusieurs applis de bloc-notes, plusieurs applis de, de météo, plusieurs applis de gestion de
Paper,
ton argent.
Paper, quand même, au rang des applications les plus inutiles de la galaxie, je pense que...
Mais elle est magnifique.
Elle est magnifique.
Ils ont cartonné les charts.
Mais c'est inutile au possible.
J'ai... J'ai une petite, enfin, ça va pas être drôle.
Mais
j'ai
non, comment ça c'est pas drôle, Simon?
Non, j'ai un petit aspect, j'ai un petit aspect codeur dans l'histoire.
Bah,
donc
tu
en fait,
faire une imitation de codeur, par exemple.
Non, parce que je suis moi-même codeur, donc. Et en fait, sur le web, quand vous allez sur le Bon Coin, en gros, ce que vous voyez à l'écran, ça vient de des serveurs du Bon Coin, d'accord?
Oui.
Tandis que quand vous êtes sur une appli, ben c'est quelque chose que vous avez téléchargé. La différence, c'est que si vous avez 6 millions de personnes qui vont sur le Bon Coin, ben, il va falloir qu'ils téléchargent 6 millions de trucs. Alors, s'ils ne téléchargent rien, eh ben, ça passe. S'ils téléchargent des super images bien chiadées en méga haute résolution, ça va faire péter les serveurs. C'est pour ça que Reddit, Craigslist, des trucs avec du gros débit et Wikipédia, ou même Google, ils ont un design, mais mini.
Il n'y a pas de site à fort trafic bien foutu.
Eh ben, citement, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que moi quand je code, j'utilise des tables. Pourquoi?
Parce que j'ai une idée
et je veux que dans deux heures ce soit torché et je passe à autre chose. Mais quand vous avez une idée et que vous voulez qu'elle soit sur Apple, de toute façon, vous allez être niqué. Il va y avoir Apple qui va devoir valider pendant 1000 ans votre application. Donc, quitte à perdre du temps, 3 semaines. Quitte à perdre du temps, autant faire un truc chiadé, ça c'est sûr. Voilà.
Mais en fait, tu dis Philippe que un site ne peut pas être beau et performant.
Ben cite-moi.
Eh ben je vais t'en citer un dès que j'en aurai trouvé. Mais je suis sûr que ça existe.
Mais si, il y en a qui sont en tout cas avec un minimum d'effet HTML5.
Mais par exemple, typiquement le responsive design, c'est un truc qui a été pensé par des graphistes que je respecte, mais pas par des mecs qui veulent faire des sites avec 6 millions de visiteurs. C'est pas soutenable.
Ça sert de se limiter alors qu'on a des gros tuyaux.
Mais parce que les tuyaux sont énormes, mais ton serveur il est tout petit.
C'est énorme quoi.
Ton serveur, des grosses machines.
Mais au-delà, alors c'est intéressant cette spécificité technique, mais au-delà de ça, est-ce que t'as pas l'impression que les utilisateurs s'en foutaient avant de ce qui était beau, laid ou pas, ou vraiment pas pratique, et qu'ils allaient effectivement sur Facebook parce qu'il y avait Facebook, qu'ils allaient sur MySpace parce qu'il y avait MySpace, et qu'ils suivaient un peu le mouvement, alors que sur la culture smartphone, les gens, si aujourd'hui on leur sort une appli de Facebook qui est vraiment très laide, le taux d'adoption pourrait ne pas suivre. Est-ce que Mélissa, toi, est-ce que c'est quelque chose qui touche?
Les applis natives sont plus jolies que les sites ou par
définition. Est-ce que tu veux qu'elles soient plus belles? Est-ce que pour toi c'est une exigence?
Les applis?
Oui.
Non, j'en ai des très moches. Il faut qu'elles fassent le job, quoi. Pour moi, c'est la fonctionnalité, comme sur le web ou le site web, il faut qu'ils fassent le job.
Les très moches, en général, c'est celle des services publics qui veulent pas partager leur contenu, en fait.
Non seulement,
il y a personne qui a repimpé la RATP, quoi.
Non seulement elles sont moches, mais en plus, elles sont pas fonctionnelles. C'est le pire des deux mondes.
C'est français.
Cadeau.
Regardez dans la presse, ils ont des trucs qui explosent les yeux. C'est les trucs les plus vendus.
Les sites web comme Twitter, par exemple, souvenez-vous, Twitter, l'appli Twitter, elle est arrivée hyper tard parce qu'ils ont rien à faire. À partir du moment où ils ont une grosse base,
c'est un gadget, quoi. Pourquoi alors, les applis sont aussi jolies et mieux chiadées que les sites?
Parce qu'il y a des guidelines précises et qu'on leur dit sur tel système, il faut que le bouton retour il soit à tel endroit et pas à l'autre bout de la page, et que voilà. Et en fait, tu dois optimiser parce que l'espace est beaucoup plus réduit, et du coup, ça te force à suivre les grands cadres d'ergonomie du truc qui sont poussés par le concepteur du système. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal. C'est tout.
Et d'ailleurs, les plus récents gros redesigns de gros sites, genre New York Times, etc., ça ressemble de plus en plus à des applications, en fait, les sites web. Avec le petit bouton en haut à gauche, petit menu.
Le web se jolifie un petit peu, si je reprends
il s'applique, il s'applique, il s'applicationnise, il se favorite.
Bon, on finira là-dessus. Hashtag jolité et hashtag machine à laver Arcachon. Ok, on attaque tout de suite une deuxième FAQ qui, ce coup-ci, nous vient d'un follower sur Twitter qui s'appelle Thomas Bernot. Thomas vous dit, à tous, il vous le demande, à l'instar des mécènes de Caramel, on parlait de sites jolis, tiens, voilà, on parlait de sites importants jolis, rien sur le web n'est éternel. Comment imaginez-vous l'après Facebook Twitter? Attention, alors le jour où on se dira, ah, tu te rappelles à l'époque Twitter, Facebook, c'était cool quand il y avait encore du monde, on vivra de quoi? D'amour de fraîche, d'un autre site, d'un autre réseau, on sera passé à autre chose?
Vas-y, fibre.
Alors, les exemples de MSN Caramel sont intéressants parce que des services meurent après avoir donné naissance à leur génération suivante, qui peuvent être des concurrents d'ailleurs.
Un peu comme la pub Volvic. Un service s'éteint.
Voilà, c'est ça. Des volcans rigolent, etc.
Des volcans rigolent.
Oh, je sais pas, il y a une histoire comme ça. Non, les volcans riaient très fort. Bon, bref. C'est pour dire que ce qui est intéressant, c'est que quand il y aura la mort des réseaux sociaux Facebook et Twitter, et que d'autres réseaux sociaux vont émerger, il va y avoir des migrations de communautés. Donc si vous avez bâti quelque chose dessus, votre communauté vous suivra sur...
Mais t'imagineras ça, donc pour toi, ce sera un autre réseau qui prendra la suite.
C'est une autre skin, mais plus sympa, mais rien ne va changer. D'accord. La vie continue.
Peut-être aussi d'autres systèmes. Même communauté.
Alors Mélissa, dis-moi.
On sera plus sur des sites web ou des applis, on aura une autre configuration de communication.
Tu parles de Tumblr sur glace?
Non. Non.
Le point Tumblr.
C'est tellement con.
Bref. Non mais la question mérite d'être posée, et moi perso je suis un peu embêté pour y répondre, parce qu'en fait de mon point de vue et du cycle de vie des sites que j'avais jusqu'à présent, j'ai déjà battu tous les records de péremption avec Twitter, donc
d'accord. Mais fait normal, mais j'aurais déjà switché trois fois, beaucoup quoi, de son déclin par exemple. Est-ce que c'est trop gros pour comme Microsoft?
Ça décline Windows XP, quoi. C'est-à-dire que ça décline, t'as quand même la moitié de l'univers qui est dessus.
D'accord. Ça se convertira.
Et toi Sylvain?
Moi j'ai pas de prédiction, mais un souhait.
Ouais.
J'aimerais bien, en fait, comme en fait, la période du Moyen Âge dans l'histoire, c'est une période qui est géniale parce que les volcans rigolent, parce qu'on était en pleine avancée technologique, on découvrait plein de choses, l'astronomie et tout, et puis le Moyen Âge, je sais pas, les mecs ont dû se regarder et ils ont dû se dire putain, ça va trop vite, venez, on bouffe de la viande crue et tout, on est sale, on se lave plus, on vit dans des châteaux tout noirs et tout. Moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça avec Internet, que d'un coup, on arrive dans un espèce de Dark Age d'Internet. Où les mecs ont perdu la foi et tout, on retourne faire des trucs avec des tables et tout, Fibre il met une couronne sur sa tête, enfin, truc de taré, moi j'aimerais bien.
Game of Twitter.
Bon voilà Thomas, t'as ta réponse pour ce qu'elle vaut. Hein. Mais bon, n'oublie pas de boire l'eau minérale lancée par la Fibre Tigre, donc un volcan s'éteint. Non, un service s'éteint, un volcan rigole.
Sujet numéro 2.
Le libre, cet ami qui vous veut du bien.
Mais vous n'en voulez pas.
Après cette seconde FAQ qui était extrêmement sérieuse et bien bien utile, hein, on va attaquer un sujet qui est extrêmement sérieux et qui ne déclenchera aucune guerre ni aucune foudre de trolls sur Internet.
Jamais.
Puisque hashtag Daz va parler de hashtag le libre.
Voilà. Le libre. Alors
attends.
Avant de commencer, hein, pour parler du libre, hein.
Tu en as parlé du libre et de son échec auprès du grand public.
C'est ça.
Voilà.
De sa non-adoption. Plus qu'échec, et comme un enfant adopté, peut-être qu'il sera adopté à 20 ans. On sait pas. Enfin, il a déjà 20 ans, voire 30, mais bon. Donc avant de commencer, déjà, j'aimerais clarifier un point pour que tous les auditeurs sous licence GPL arrêtent tout de suite les rites vaudous qu'ils ont commencé sur les poupées à l'effigie du studio 404. Après, la FAQ, car je m'en rappelle, et vous aussi, chers auditeurs.
Oui, les
La FAQ d'octobre ou de novembre.
De la première émission.
Ouais. C'était la première émission, bah voilà. Donc, celle où on disait que, en fait, on s'en foutait de la différence entre entre le libre et le gratuit. Alors je vous rassure, chers auditeurs, nous connaissons parfaitement la différence entre le libre et le gratuit. Voilà. C'est juste que cette FAQ, elle a été un peu montée à l'arrache par Ghislain,
notre
réalisateur charcutier et barista, qui l'a plus ou moins excisé. Hein. Alors, juste pour quand même sauver son honneur, Ghislain, à l'époque, croyait qu'il pouvait télécharger Google et le stocker sur une clé USB de 8 mégas. Voilà. Voilà, c'est pour placer un peu le niveau de connaissance et d'expertise du truc, hein, donc lui on voulait pas, c'était pas sa faute.
Bon, Ghislain prendra pour tout le monde.
Voilà, donc le disclaimer étant maintenant posé, alors on va se pencher sur le libre et tenter de comprendre pourquoi en 2013, l'immense majorité des gens qui utilisent un ordinateur s'en contrebranlent vigoureusement. Parce que c'est pas leur faute hein, aux gens, quand même, faut le préciser. Comme le disait si bien Jésus, dans ses moments de doute, il en a eu pas mal.
Le mec est juste Jésus.
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ces glands. Voilà. Hein, cet échec de pénétration du libre dans vos vies, c'est aux libristes eux-mêmes qu'il faut l'imputer. Point lexique. Libristes, hein, c'est donc les adeptes du libre. C'est pas des gens qui lisent des livres. Il y a aucun rapport.
Hein, ex-libriste.
Voilà. Donc, parce qu'un utilisateur de base, rappelons-le, c'est assez idiot. Là, je vous parle des gens qui, lorsqu'ils achètent leur troisième PC, ne manifestent absolument aucune émotion au moment de payer pour la troisième fois la même version de Windows qu'ils avaient déjà dans leur machine précédente. C'est mon cas, personnellement.
C'est notre cas.
Voilà. Je parle des gens qui ne lisent jamais les CLUF, les contrats de licence de l'utilisateur final. Et je parle de ces gens qui ont 27 barres d'outils dans leur navigateur web à force de cliquer n'importe comment sur suivant, OK, quand ils installent un produit qu'ils ont chopé sur Internet.
C'est toi aussi, ça ?
Non, faut pas déconner.
c'est ton
de l'honneur.
C'est ton père.
Alors, comment voulez-vous que ces ignares qui n'arrivent même pas à dissocier la machine du système d'exploitation qu'elle fait tourner arrivent à comprendre les tenants et aboutissants du libre dans la société capitaliste à tendance oligopolistique ?
Oh, pourtant, c'est important.
Ben oui, mais moi, ça me surprend pas. Parce que l'humanité entière utilise quotidiennement des softs libres. Les serveurs Apache restent les premiers serveurs web en termes d'hébergement de sites, avec en 2012 65% des 582,7 millions de sites web recensés par Netcraft. La PS3 de votre neveu utilise une variante de Linux comme système d'exploitation, et il y a peut-être des chances que votre GPS ou votre frigo embarque quelque part un héritage d'Unix ou de ses semblables. Pourtant, ça, personne ne le sait. Et la part de Linux comme système d'exploitation PC, c'est-à-dire reconnu par l'utilisateur qui est devant la machine, oscille entre le ridicule et l'anecdotique, avec 1,21% de part de marché en avril 2013.
C'est les audiences, il ne faut pas rater ça.
Point troll. Alors, une seule solution, normalement, pour lutter contre cette méconnaissance crasse, il faut utiliser des recettes qui fonctionnent, il faut regarder Sylvain et il faut marketer. Voilà. Il faut populariser GIMP à la place de Photoshop, il faut promouvoir OpenOffice à la place de Microsoft Office, et là Dieu sait que c'est assez compliqué. Il faut casser le monopole de SoundForge avec Audacity, surtout que SoundForge est de plus en plus compliqué à craquer. Audacity c'est gratuit, c'est moche mais c'est gratuit. Le souci c'est que le marketing justement ça coûte des ronds, et l'autre souci c'est que le marketing pour les libristes c'est Satan. À peu près. Satan 0,5 environ. Voilà. Et que ces mecs-là, ils pensent que si le produit est bon, il sera adopté naturellement, sans artifice consumériste visant à contrôler les masses, en fait.
Ah, les naïfs.
Ah, ils sont chauds, les mecs. Et c'est un nouvel aspect du libre quand même qu'il faut noter, c'est qu'effectivement le joli, la jolité, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, commence à rentrer dans les mœurs. Parce que jusqu'à présent, le coup de polish qui rendait le produit sympa et facile à utiliser, faut bien reconnaître que c'était pas super.
Non, priorité, le livre c'était pas très 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 shiny. Voilà, shiny.
Donc, je sais pas si vous avez déjà utilisé, déjà vous autour de la table et vous derrière votre radio. On rêve là, mais bon. Devant votre radio. Si vous avez déjà utilisé des soft open source téléchargés sur SoundForge, sur SourceForge, excusez-moi.
Ouais.
Petit lapsus, si vous ne l'avez jamais fait, je vais essayer de vous expliquer ce que ça donne. En fait, l'app est tellement magnifique qu'ils oublient juste de faire une interface utilisateur. Voilà, c'est le seul problème, c'est fallait y penser. Niveau minimalisme, voilà, on a pas fait mieux. En fait, plutôt que de s'emmerder avec l'ergonomie, on fait pas d'écran, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de bouton, que dalle, rien. Du coup, il reste deux solutions. Soit on utilise la ligne de commande à chaque utilisation, ou alors, on développe soi-même le petit bout d'interface qui nous permettra de jouir librement du produit. Et ça, c'est le libre. Le produit te plaît pas, plutôt que de chialer comme un faible, tu te retrousses les manches, tu pars au turbin, tu résous le problème et tu recompiles le noyau de ton appli. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça la vie, c'est comme ça qu'on veut que ça fonctionne. Et c'est comme ça que les libristes veulent que ça fonctionne. Et le problème, en fait, c'est que si jamais les gens réussissent à faire des trucs un peu trop jolis, et sympa à utiliser, les multinationales se pointent, un peu comme l'Irak s'est pointé au Koweït en 90. Regardez Android par exemple, ça a été racheté par Google en 2005. Alors Google a été cool, ils l'ont laissé un petit peu ouvert pour que les gens puissent bricoler des trucs et faire un peu ce qui les arrangeait, donc ils bousillaient pas les services core. Mais maintenant, on a chaque fabricant de smartphone qui vient foutre le bordel en collant sa patte et sa surcouche dégueulasse sur le système standard.
Et les opérateurs aussi.
Et le pire, c'est que les versions modifiées par les fabricants de smartphones deviennent aussi fermées qu'un OS propriétaire. C'est-à-dire que t'as un OS qui est partagé par Google et qui est mis à jour constamment, mais si t'as le malheur d'être passé chez Samsung, il faudra que t'attendes que Samsung daigne porter la nouvelle version d'Android sur ton smartphone. Donc en fait, c'est le pire du libre, ça. Et paradoxalement, c'est Android qui est l'OS mobile le plus utilisé. C'est pas ironique, ça.
À méditer et accent aigu.
Hashtag à méditer.
Alors, ce livre-là, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous manqué depuis 15 ans, et que depuis 15 ans, il y a une sorte de grande couverture média où, effectivement, comme tu dis, un évangélisme de la part des libristes et des pros du libre, de l'open source et autres très bonnes intentions, mais que ça ne prend jamais, en fait. Et tout le monde dit, c'est génial, mais en fait, personne n'utilise vraiment en masse, on va dire. En masse, dans le grand public. Pourquoi ?
C'est fichu, là, parce que, en fait, on parle.
Attends, c'est carrément fichu pour
toi. C'est une guerre qui est non seulement finie, mais en plus ringarde aujourd'hui, parce que il y a eu une tentative du libre et de Linux, notamment, d'infiltrer le marché, le système d'exploitation de monsieur tout le monde, guerre qui a été perdue. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, il y a eu un Yalta de Windows et de Linux. Linux et le libre s'occupent des serveurs. Donc Internet tient sur le libre. Et Windows s'occupe de monsieur tout le monde.
Donc il y en a qui restent dans les coulisses et l'autre qui.
Voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des petits développements et tout, etc. Mais en fait, ça se passe sur iPhone aujourd'hui. C'est terminé. C'est Apple. C'est plus du tout Linux. Et si aujourd'hui, vous voulez arriver sur Linux, vous rentrez dans un labyrinthe sans issue. Parce que il faut installer Linux, ce qui est chiant.
Pourtant, c'est rapide avec le live CD et tout.
Ouais, vous lancez Linux, vous essayez de le comprendre, c'est pas gagné. Et quand vous êtes sur Linux, vous le comprenez, il y a rien. C'est-à-dire que il y a un mauvais Photoshop, il y a un mauvais InDesign, il y a un mauvais Word, il y a pas de jeu. C'est bon, vous pouvez prendre le PC, vous jeter dans la Seine avec. Comme ça, vous êtes sûr de vous tuer avec. Quoi, voilà.
Mais c'est vrai que d'ailleurs, on parle des utilisateurs avancés parce que Daz, dans ta chronique, tu parles effectivement des gens qui laissent des spyware qui sont sur Windows de manière un peu passive. Mais même nous,
les idiots,
même les gens qui sont, on va dire, un peu plus geeks, j'ai l'impression qu'on a tous une fois installé Linux pour dire qu'on l'avait installé.
Je l'ai fait.
Globalement, non, pour dire, j'ai installé Linux. Mais que globalement, enfin, aujourd'hui, qui autour de cette table, même vous, auditeurs, qui utilise vraiment en tant que système ou logiciel principal une solution?
Moi, j'avais essayé et puis le bureau a disparu. Donc, j'étais un peu emmerdé et il fallait recompiler le kernel. Donc, j'ai lâché l'affaire. Hein. Moi, j'ai réinstallé Windows XP, quoi. Normal.
Et vous, alors, tu tombes sous quoi, Sylvain?
J'ai eu Ubuntu pendant un petit moment. Ouais. Parce que mon disque dur avait crashé et Windows ne s'installait plus dessus.
D'accord.
Donc, je me suis rabattu sur un truc un peu léger, voilà. Et j'ai adoré parce que j'ai passé toute une nuit à personnaliser mon bureau d'une façon que j'avais jamais rencontrée. Ouais. Là, c'est vraiment le syndrome Android. Ouais. C'est exactement ça. Mettre des widgets partout et tout en ligne de commande, machin, aller sur les sites. J'ai passé vraiment une nuit blanche. Le matin, j'étais super fier du résultat et tout, et je l'ai jamais relancé. Parce que j'avais rien
c'est
à
juste
faire
pour
dessus.
La beauté du geste.
Toi, Mélissa, tu tournes sous quoi?
Je tourne sous macOS, donc vous voulez. Et je n'ai jamais installé Linux, donc je ne vois même pas comment ça fonctionne.
Le problème de Linux, en fait, c'est comme le mécanicien qui, pour te vendre une voiture, insiste pour que tu foutes les mains dans le cambouis. Et toi, tu lui dis, mais non,
je veux juste sortir du concessionnaire et conduire.
Bah oui, c'est tout.
Mais d'un point de vue purement rhétorique, on a l'impression que le libre a tout pour lui. C'est une solution qui est noble, qui est contre les méchantes multinationales américaines, qui est censée être stable, qui est censée être plus ou moins performante, où il y a une communauté qui participe, il y a une responsabilité, il y a une sorte
le marketing
qui est au fondement d'Internet en plus.
Les mecs sont quand même des furieux, faut le dire. Quoi.
Mais c'est pour ça que c'est une histoire un peu triste, parce que ça reflète quand même les valeurs d'Internet, ce genre de choses, et pourtant tout le monde s'en fout.
On a le libre, on a le communautaire, on a la participation, on a le gratuit, on a le...
Les gens ont besoin d'idéologie, ils ont besoin de danger et de démons. Et il y a des gens qui disent moi c'est l'écologie, et d'autres qui disent moi c'est Linux, on sait pas pourquoi. Et parmi ceux-là, en plus, ils s'entretuent, c'est-à-dire moi c'est Debian, moi c'est... jamais ils s'uniront tous derrière un drapeau.
C'est les zones tribales pakistanaises,
Pourtant, il y en a des gourous, hein, tu vois, un Richard Stallman avec sa grosse barbe qui va faire des conférences enflammées sur le logiciel libre, etc. C'est extrêmement intéressant à voir, mais bon.
Ça semble trop technique. Voilà.
C'est rigolo, tu le regardes comme un original qui fait du diabolo dans la rue, quoi. Tu lui mets une pièce, tu lui mets une pièce et puis toi tu vas au travail. Hein.
Va t'acheter un rasoir. C'est les punkations d'internet.
Donc en gros, pour vous, le libre est définitivement friendzoné par les utilisateurs, quoi. On dira, ah, t'es vraiment cool, mais ouais, je préfère qu'on reste amis de loin. T'es ma bonne copine moche.
Je t'ai rendu à le bout, mais jamais je te lance.
Ah bon, désolé, Libre, on te laissera rendu à le bout, juste à côté, comme ça, sous le coude.
FAQ.
Troisième FAQ pendant que nos amis les libristes préparent leurs torches et des piques et des baïonnettes.
Et les cagoules pointues.
Victor nous demande. La mixité des communautés existe-t-elle vraiment sur Internet?
Putain.
Entre parenthèses, ne suis-je pas plutôt tenté de suivre mon semblable? Alors, j'ai pas très bien compris la question, mais c'était promis de suivre les questions de Victor.
Voilà. En fait.
La consanguinité.
Donc la mixité des communautés existe-t-elle c'est vraiment sur Internet, hein, ou est-ce que on reste dans un tribalisme un peu fermé comme on
le Nord-Pas-de-Calais de l'Internet?
C'est compliqué comme question.
Oui.
C'est-à-dire que
c'est une très bonne question en tout cas.
Ouais. Est-ce qu'en fait on suit que les gens non, qui nous ressemblent? C'est ça que tu, oui, c'est ça qui veut dire Victor?
Alors Sylvain, vas-y. Tu m'as l'air.
Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a pratiquement aucune mixité. Et même sur Twitter, qui a toujours été le réseau vachement poreux parce qu'on peut suivre n'importe qui peut nous suivre. Il y a quand même des communautés fermées qui se forment et rarement les ados vont rencontrer la communauté des fans d'Apple par exemple.
Ouais. Voilà. Donc en gros, il y a une par illusion.
Exemple, c'est un exemple.
Il y a une illusion de la communauté globale qui en fait ne fait qu'héberger plein de petites communautés.
Le village mondial n'existe pas. C'est la théorie des small boxes.
Ah, des petits arrondissements parisiens.
Voilà, c'est ça. Des petites boîtes reliées entre elles par certaines personnes,
ouais,
mais vraiment par des fils assez ténus.
D'accord.
Ces petites boîtes, c'est les clusters, comme disent les sociographes.
Mais ça, t'es d'accord avec cette théorie? T'es d'accord avec ce que dit Victor? Ou tu penses qu'on peut jumper d'une communauté à l'autre, d'un réseau à l'autre?
Non, c'est quand même assez difficile. Il y a des contacts, mais qui restent ponctuels, en fait.
D'accord.
Comme l'ado à la star, et la star qui répond, mais
qui
ça arrive une fois, et puis c'est un coup d'un soir, et puis fini, quoi.
Enfin, coup d'un RT d'un soir,
pas.
C'est... Et le lendemain matin,
tu mets RTA.
Ouais, non, laisse-moi ton handle.
C'est-à-dire qu'on a grandi un peu le cercle, mais pas au point d'avoir d'accord, que des inconnus.
D'accord, donc on reste aussi un peu entre amis et en cercle fermé.
Ce qui est totalement logique, en fait. Pour moi, puisqu'on fonctionne par goût, et qu'en général, on suit sur Twitter des trucs qui nous plaisent, forcément, en général, on a tendance à aimer des machins qui nous ressemblent aussi. C'est un instinct de base, je pense, de l'être humain.
Donc pourtant, on reproduit le comportement qu'on a dans la réalité sur Internet.
Ouais, bien sûr.
Fibre, il n'y a pas le caméléonisme ou la camélonité, hein,
la caméléance.
Est-ce qu'on peut être un caméléon social?
Ben oui et non. Enfin, la question est un peu bizarre, mais enfin, moi, je rencontre des gens, mes amis, en gros, je les rencontre sur Internet. Ok. Et ben, quand on se rencontre en vrai, ça fait tout bizarre parce qu'il y a des vieux, des jeunes, des blancs, des noirs. Donc il y a une sorte de mixité dans un certain sens.
Donc toi, tu penses qu'il y a comme une sorte de mixité?
Bah, oui, toujours.
De
si mixité, vous, si vous, si vous prenez.
Mixité physique, mais pas de mixité de point de vue, de.
Mixité aussi de CSP.
C'est pas précisé. Si tu prends les fans d'Apple, il y aura tout. Si tu prends, je sais pas, les fans de Tourcoing, bah, tu auras surtout des habitants de Tourcoing.
Oui, mais est-ce que les fans d'Apple et les habitants de Tourcoing vont se rencontrer?
Bah, fans d'Apple à Tourcoing, oui.
C'est un Apple Store à Tourcoing, pourquoi pas? Écoutez, on ira élucider cette question de manière plus développée la prochaine fois qu'on enregistrera à Tourcoing pour la prochaine soirée 404.
Sujet numéro 3.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Le culte du clic.
Ça fait quoi d'avoir Google comme rédac' chef?
Allez, troisième sujet. On parle de presse, on parle d'URL, on parle de SEO, on parle de pratique sale, on parle de Google. Et c'est Mélissa qui nous parle. Ça va Mélissa, tu dégrises un petit peu?
Elle a fini sa bouteille.
J'avais un instant Sylvain Palais pour vous.
Ah,
vous voulez pas me
si, 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 si.
Imaginez, vous êtes journaliste web.
On rappelle que Mélissa est journaliste au Nouvel Obs quand même.
.com,
donc ouais.
94 000 morts en Syrie. Christine Boutin qui fait une blague de merde à propos de la mastectomie d'Angelina Jolie. François Fillon qui annonce depuis le Japon qu'il sera candidat quoi qu'il arrive en 2016 à la primaire de l'UMP. Et Nabila, non mais allô quoi, désolé, Benatia crache sur un agent de la SNCF. Ces faits, ces événements, les rédactions des sites d'info les apprennent et les traitent entre le 8 et le 13 mai.
D'accord.
Que font-elles ? Que font-elles ? Des articles sur la Syrie, oui. Des articles sur un tweet de Christine Boutin, oui encore. Fillon fait les ouvertures de journaux radio. Moult analyses de politologues évoquant l'hystérie médiatique s'en suivent sur Internet.
Ouais.
Un 9 mai donc, où il ne se passait absolument rien. Et oui, puis, d'accord. Nabila.
Ah !
1,2 million de résultats à la requête Nabila crash sur Google. Les premiers sites qui sortent quand on cherche, Le Parisien, Métro, Le Midi Libre, L'Express, Le Nouvel Observateur, Le Huffington Post, L'Est Républicain et Europe 1.
La grande presse française.
Je ne suis qu'à la première page sur Google. Mais attention, attention, Nabila est un sujet. J'ai personnellement d'ailleurs œuvré pour que le site américain New York Meme en fasse un meme.
Mais on s'en rappelle.
Ça a marché. En revanche, qu'elle crache et qu'elle soit interpellée, méritait-il que Europe 1 mette 3 journalistes et sorte une exclue ?
3 journalistes.
J'en doute un peu. Mais ça intéresse les gens, nous dit-on, et il faut écrire pour des lecteurs, pas vrai, oui. Alors les stats d'audience qui explosent dès que vous placez Nabila dans un titre ne disent pas autre chose. Pendant ce temps-là, votre papier sur le conflit israélo-palestinien vivote vaguement. Sur les papiers à propos de...
Un gros sur la patate, Mélissa.
La tristesse.
Non, mais sur les papiers à propos de crachat, l'info est la même à chaque fois. Vous ouvrez le papier, vous apprenez rien de plus. Vous allez sur l'Est Républicain, Europe 1, machin, c'est toujours la même information. Alors, c'est pas Nabila le problème, non. C'est plutôt l'obligation que les médias se donnent à traiter le sujet. Il faut être dessus, entend-on dans les couloirs de rédaction, alors que n'importe qui tweet, donc Christine Boutin, par exemple. Tout ça pour faire quoi ? Produire un titre pour que les gentils robots de Google fassent « Hey, vous avez produit des mots-clés, on va les référencer et bam, on va vous faire du clic. »
Donc là, on parle carrément de produire un titre, même plus un article, c'est d'abord le titre.
Il faut avoir un titre.
Et une URL.
Et une URL,
et une URL avec des jolis mots-clés dedans. Alors, on ne fait plus un papier sur Nabila, non. Maintenant, aujourd'hui, c'est 5 papiers sur Nabila. Parce que clic, 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 ça fait 5 clics. Et on n'a pas vraiment la valeur ajoutée dans les 5 différents papiers. Non, on en fait 5 avec 3 paragraphes ou 2 paragraphes ou 1 paragraphe. Et ça donne 5 papiers sur Nabila.
Oh, c'est beau.
Est-ce que ça vous rappellerait pas un peu ce que vous lisez parfois ? Parce que ça vous arrive forcément quand vous tombez sur Melty. Au détour d'une requête internet.
Oh là là. C'est vrai. Tu reviens du Nouvel Obs, mais tu n'iras pas chez Melty. Toi.
Vous tombez sur un papier, il y a un paragraphe écrit comme il écrit. Et là, vous dites, bon, ok, je l'ai vu, vous avez vu un titre et vous passez comme ça. Il faut savoir que le boss de Melty, qui est un peu considéré comme un mec intelligent par les rédacteurs-chefs des sites d'info, dit, texto, je le cite, « Chez Melty, on travaille avec Google, on se passe toutes les heures pour être référencé le mieux possible. Super. » Donc, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, je me demande, est-ce que les sites d'information sont devenus des putaclic ? Alors, ma position est un peu délicate ici, on s'en rendra compte, vu que je suis journaliste pour un site internet. Mais, non, mais je veux savoir pourquoi on en est arrivé là. Mais en fait, c'est tout con, c'est que le modèle des sites internet aujourd'hui, c'est la publicité. Et la publicité, elle est payée en fonction du nombre de clics. Donc il y a des jolis prix qui sont calculés pour ça. Sylvain pourra très bien vous en parler. Et donc le problème, c'est que c'est ridicule la différence entre le prix qu'un annonceur paye pour être sur la dernière page du Nouvel Obs, par exemple, et ce qu'il payera pour avoir une ad en display sur le site internet du Nouvel Observateur. Donc les autoroutes de l'information ont un gros problème, c'est qu'elles n'ont pas de péage pour faire des jolies recettes. Nous n'avons pas d'argent.
Une métaphore à la daze.
Nous n'avons pas d'argent, donc nous produisons des articles pour faire clic, 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 et pour qu'on gagne un peu plus auprès des annonceurs. Et on ne voit pas vraiment comment ça va s'améliorer. Du coup, on en fait toujours plus de clics, mais on ne sait pas ce que ça donnera. Il faut savoir qu'aux États-Unis, où l'audience est quand même mondiale et beaucoup plus conséquente, il y a à peine 7 sites d'information qui sont profitables. Le Huffington Post, notamment, avec 73,3 millions de lecteurs dans le monde par mois. Gawker, 40 millions. Et BuzzFeed, qui est toujours cité en exemple, et encore pas profitable.
Toujours pas profitable, pourtant.
D'ici la fin de l'année, le fondateur dit d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, toujours pas.
Donc, que font le Figaro.fr, le Monde.fr, le NouvelOps.com, l'Express.fr? Ils se disputent les premières places des classements des sites les plus consultés, parce que c'est ce que les annonceurs regardent tous les mois.
Sur les panels Nielsen.
Alors attention, absolument. En mars, celui qui était en tête, c'est Le Monde, / Huffington Post, il faut le préciser. Bravo Sylvain, avec 9,8 millions de visiteurs uniques.
Alors jusqu'ici, en fait, personne ne savait où je travaillais, mais...
Voilà.
Je dénonce.
Et donc le contenu de certains sites d'info commence à se rapprocher de ce qu'on lit sur Melty, et ça me fait pas très plaisir. Le problème, c'est que le modèle économique, il y a des murs payants qui sont envisagés, mais c'est pas encore assez pour envoyer des journalistes très loin et les faire travailler une semaine sur un papier. Donc pour l'instant, on leur demande plutôt de produire 4 à 5 papiers par jour. Voilà. C'est comme si donc, on doublait la pagination d'un quotidien avec moins de journalistes. Donc forcément, ça donne 25 papiers sur Nabila qui crache. Mais donc, nouveaux articles, nouveaux clics, nouveaux annonceurs. On en est pour l'instant là dans la recherche de notre modèle économique. Nabila assurera-t-elle la survie des autoroutes de l'information? Je ne suis pas sûre. Il faudra peut-être trouver de l'argent autrement. Mais cela dit, si elle avait eu les seins nus, peut-être qu'on serait un peu plus heureux à l'heure qu'il est.
Oh là, elle a placé seins nus à la fin pour que les bottes passent sur le studio 404.
Faudrait qu'on le mette dans l'URL de studio 404.
On mettra Nabila seins nus, et puis on mettra aussi la magnifique URL qu'on a vue aujourd'hui sur slate.fr, qui a une URL à base de
vagin, alcool, anus. Il y avait tout.
Alors, cette histoire de médias, on la connaît un petit peu, parce qu'effectivement, c'est un peu leur médiamétrie à eux. Ils sont rétribués par la publicité, c'est le même business model. Mais est-ce que nous, les lecteurs, vous rendez compte que les médias produisent de plus en plus, de plus en plus courts, et c'est aussi une époque qui veut ça.
De plus en plus vide.
Et est-ce qu'en tant que lecteur aussi, c'est ce que vous demandez? Est-ce que parce que je me dis d'une certaine manière, si comme le dit Mélissa, si on se retrouve à écrire 5 petits papiers sur Nabila en temps réel durant l'après-midi au lieu d'un gros dossier en fin de journée sur Nabila, est-ce que c'est aussi parce que le lecteur il veut grignoter toute la journée en continu?
Mais non, c'est de l'optime. Ça, c'est déjà, je suis super content qu'en fait Mélissa ait pris cette position-là, parce que je m'inquiétais. Moi, je pensais que tous les journalistes étaient d'accord avec ce modèle de merde. Donc sache-le, ça me fait plaisir. Ta croisade, merci, c'est génial.
Et
pour moi, justement, c'est un peu le...
chaque émission médecin va se revirer.
Pour moi, c'est un petit peu l'industrialisation de la mendicité, tu vois. C'est-à-dire que à la base, t'as un mec qui fait la manche.
Ouais.
Il tend la main comme ça et puis il parle. Après, il en a marre de parler, il met une pancarte.
Ouais.
Puis après, il passe dans les wagons en déposant des petites cartes de visite avec le texte écrit. Et c'est toi qui le lis en fait et qui donne l'intonation, parce que lui, il a pas le temps. Et c'est un peu ce truc-là pour l'info et le traitement qui est fait avec les sites. C'est ils vont au plus efficace. Ils pouvaient faire un papier avec 5 paragraphes. Ils font 5 papiers d'un paragraphe, ça fait 5 clics. C'est le modèle qui est comme ça.
Lecteur s'habitue à lire un papier sur deux. Ça, je sais pas.
Vous utilisez vraiment Google Actualité?
Alors, personnellement, non.
Parce que moi, je connais personne qui le fait, mais par contre, moi, ce que j'ai remarqué...
J'utilise Google, tout simplement.
C'est que, pour avoir un petit peu travaillé au PulseOps, d'ailleurs, j'ai arrêté ma collaboration...
Ah, tu as arrêté ta collaboration avec PulseOps?
Oui, parce que j'avais trop de pression au niveau des vues, justement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les articles racoleurs sont hyper vus. C'est-à-dire, mais il y a un ordre de grandeur différent. C'est-à-dire, moi, je faisais un article qui avait 2000 vues, et les articles à 160 000 vues, quoi, sur... Voilà,
c'est exactement la démonstration que je voulais faire, Fibre.
Non, attends.
Si.
Faut que je peux la contrer, alors. Si. Allez-y.
Non, attends, d'abord. Envoyez.
On est d'accord qu'un journaliste écrit pour son lectorat.
Ouais.
Quand même.
Je l'ai dit.
Oui, c'est la déontologie merde, quoi. On pense à l'utilisateur en premier, on est d'accord.
Dis-le plus bas.
Est-ce que vous êtes... Avec ses griffes. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un site, genre le HuffPost ou ce genre de site-là, où sur la barre de droite, on a le petit onglet social où on voit les articles les plus partagés de la journée.
Les plus partagés, les plus commentés, etc. Voilà.
Et bien, c'est les articles les plus putassiers.
Ouais.
Mais pas tous, hein, parce que si tu vas sur le monde.fr, des fois, t'as des belles surprises.
Oui, parfois, le monde
reste une sorte, d'îlot.
Ouais.
Oui, c'est pas la même ligne éditoriale qu'un.
Moi, par exemple, sur la section musique de Libé, les plus lus dans la section musique de Libé, il y a 4 articles sur Daft Punk sur les 5 plus lus. 3 articles sur Daft Punk.
Je dis pas qu'il faut pas faire Daft Punk, qu'il faut pas faire Nabila. Oui, il faut faire Daft Punk.
C'est la manière de le traiter.
C'est la manière de faire, et surtout, au lieu de faire genre 1-2 papiers. un peu costaud et un autre papier avec juste l'effet brut, on fait 12 papiers, quoi.
Et ça, donc ça, c'est le clic, mais est-ce que c'est aussi, comme on disait, on en parle souvent, parce que ça revient, c'est une des thématiques qui revient souvent sur 404, c'est que l'attention span, donc le taux de concentration d'attention des lecteurs et des gens sur Internet aujourd'hui, c'est réduit comme peau de chagrin.
Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux.
Moi, ça, c'est pour moi, dire ça, c'est, sur New York Times,
dire ça, c'est comme le mec de TF1 qui parlait de temps de cerveau disponible en prenant tous les téléspectateurs pour des abrutis.
Ouais, il y avait du cynisme, mais pas forcément du faux.
Beaucoup de cynisme.
Mais les gens ont appris, ont affiné leur façon de lire sur Internet, donc ils savent qu'ils peuvent tomber différemment.
Oui.
Ils savent qu'ils peuvent lire un live ou ils peuvent lire un papier de 20 000 signes. Ils savent sur plus ou moins sur quel site ils vont trouver quel format. Donc on s'habitue et on sait qu'on va trouver quelque chose et donc on va chercher quelque chose aussi. Donc on a appris à ne plus aller chercher sur certains sites et à ne plus consommer certains trucs qu'on n'a pas envie de consommer.
Pour finir, est-ce que tu penses que ce modèle économique va survivre ou tu penses que, quitte à te faire virer quoi qu'il arrive...
Ça fait 5 ans que je me dis, quand est-ce qu'on va trouver. Et là, cette année, vraiment, dans les rédactions, l'ambiance est dure parce qu'il y a des coupes de budget et ils savent que Internet, ça prend beaucoup, beaucoup d'argent, surtout quand c'est associé à un autre média.
Ouais.
Au Nouvel Obs, on prend de l'argent au magazine et on ne sait pas comment faire. Et ça fait 5 ans qu'ils réfléchissent à trouver. Il y a le modèle américain des murs payants, sauf qu'ils ont une audience qui est globale, mondiale. Ouais. Nous, on est français, quoi. Ouais. On a des audiences qui sont incomparables le jour où on aura assez pour payer. Il y a le modèle de Mediapart qui est profitable, mais...
Il n'y a pas de la place pour plein de médias.
Il n'y a pas, pas de la place. Donc, il y a un moment, je pense qu'il y a des sites web qui vont être obligés de fermer.
Moi, je pense très sincèrement un truc. Et c'est un message que je voudrais faire passer à tous les start-upers qui lancent leur service sans savoir comment ils vont le monétiser. La publicité n'est pas un modèle économique, quoi. On ne gagne pas d'argent avec de la publicité.
Ah oui, c'est là.
Sur Internet, c'est terminé.
T'en parleras à Pirate Bay, quoi. Enfin, je veux dire, tous les sites de Link, ouais. Ils marchent que là-dessus et ils sont très riches.
Non, mais il y a la publicité, il y a de l'affiliation.
Et ce sont pas des sites de contenu.
Mais voilà, ils se contentent de passer les plats, quoi. Donc,
voilà,
ils payent rien en termes de
charges. Non, mais je veux dire, pour contredire Sylvain, aujourd'hui, il y a des fortunes qui se font sur la pub. Je suis pas d'accord avec le principe, je suis pas d'accord avec comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est pas des modèles sains, mais aujourd'hui, ça marche. Et les gens se ruent vers l'Eldorado. Et le PlusOps marche sur la pub.
Ouais, mais
juste avec de la pub, il est pas rentable, hein, le plus
oui, mais c'est
rien n'est rentable juste avec de la pub. Twitter n'est pas rentable.
Surtout, là, on parle de sites de médias, de presse, donc avec des journalistes, des enquêtes, des choses comme ça. Là,
et des gens qui travaillent pour.
Des sites qui génèrent du pop-up comme au hasard, des sites de stream porno, des choses comme ça. Effectivement, eux, ils ont 3 développeurs et.
Et puis c'est tout.
Dernière FAQ et qui va faire plaisir à Mélissa, qui est un peu triste là, elle est seule avec son verre de muscat, elle regarde vers l'horizon, les pieds dans la Seine au bord du
J'essaie de sauver Martin. La presse française, moi monsieur.
Mélissa essaie de sauver la presse française. Verre par verre, en tout cas. Réa nous demande, est-ce que c'est pas un peu triste de ne publier que du Not Safe for Work? Il pense surtout aux microblogs sur Tumblr qui ne font quasiment que ça. Est-ce que et d'ailleurs je lisais aussi, j'avais une sorte de tendance aussi de filles sur Twitter qui ne publient que des liens à super gore ou Not Safe for Work. Est-ce que c'était marrant, mais est-ce que du coup ça devient pas un peu chiant de le NSFW? Ah,
moi j'en sais rien.
Toi, t'en sais rien. Pourquoi? Parce que toi, t'es le mec
Parce que j'ai un proxy qui est super chiant au travail et qu'en fait, j'avais un lien sur deux que vous balancez sur Twitter quand on est en journée. Moi, quand je clique, je me prends un stop. Bah oui.
Les gifs porno avec des amputés, tout ça, tu
les
vois pas?
Je n'arrive pas à voir. Ça dépend de où c'est hosté. Donc, mettez les trucs sur IMGour, là. Ça marche bien. Mais les trucs, les autres.
IMGour.
Moi, je dis IMGour.
IMGour.
Moi, c'est le côté moldave du truc qui me plaît.
Donc là, c'est même plus RG au soft G. Là, c'est IMGour. Voilà. Donc, Imager.
Un petit peu comme du boulgour, en fait.
C'est ça que je pense à chaque fois que je le lis. En plus.
Est-ce que je trouve que le trop de NSFW tue un peu le NSFW? C'est ça la question.
Franchement, ça m'intéresse pas parce que déjà les liens m'intéressent pas. Je veux dire, sur Twitter, quand quelqu'un poste un lien, il y a pas de valeur ajoutée, il y a pas de. Je veux dire, Twitter est un espace de création, donc je veux lire ce que font les gens. Voilà. Ce que fabriquent les gens, leur stratégie.
Ah, mais là, tu dérives du truc. Là, t'es même plus. T'es dans le procès du lien.
Non, mais ok, si tu veux montrer tes seins, ok. Ça va. C'est une tactique comme une autre.
C'est que ce soit les tiens.
Quoi? Ouais, il faut que ce soit les tiens. Mais même, enfin, on s'en fout maintenant. C'est tellement.
Tu te piques de ça à te filer au tigre.
Franchement, maintenant c'est old. Tout est old.
Ah, d'accord.
Mais non, là. Il y a toujours l'effet d'une self-work. Puis la petite surprise.
Mélissa, alors toi, tu gardes. T'as toujours le petit côté un peu calendrier de l'avant. Ton petit truc.
Exactement.
Ah, un SFW. Alors,
des fois, t'es pas dans la bonne position, mais là, ça peut arriver. T'as le bon effet. Ça marche bien. D'accord. Juste tu cliques et ça fait oh.
Donc tu restes bonne cliente de ce genre de choses.
À petite dose.
Et toi, Sylvain?
Alors, la question, c'est les filles qui postent que ça. Est-ce que c'est triste?
Ah non. D'abord, c'était à la base, est-ce que c'est triste de ne publier que du NSFW?
D'accord.
Et il disait, par exemple, sur Tumblr, il y a des microblogs qui ne font que ça.
Pour c'est le modèle économique de Tumblr.
Force
de
Covid.
D'accord. Bon, je sais pas, c'est une non-question pour moi.
C'est une non-question.
C'est comme si tu demandais à une chaîne YouTube spécialisée dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est pas triste de faire que du jeu vidéo? Enfin, je sais pas.
D'accord. Bon. Voilà.
Une petite pensée quand même pour le dyslexique qui était passé sur Twitter et qui confondait NSFW avec NFSW, c'est Need for Speed World. Voilà. On pense à toi, mec.
Sujet numéro 4.
Génération SAV.
Peut-on s'exprimer sans devoir assurer un service client?
Quatrième et dernière chronique et débat de notre studio 404 numéro 8, on va parler de SAV, de la génération SAV, et du fait que maintenant, quand on publie, on doit assumer, gérer, comme de criser, tout ce qui se passe derrière, parce que les gens ont droit de réponse et qu'on doit donner réponse au droit de réponse. Et pour nous en parler, c'est Fibre Tigre. Le spécialiste de la chose ou pas,
Fibre Tigre? Un peu, parce que je suis un peu ma marque personnelle.
Ah, c'est ta marque personnelle.
Et oui, on y est en fait, parce que depuis le temps que les experts, donc Sylvain quoi, du web, nous en parlent, ben voilà, on a chacun notre marque personnelle, on la gère. Et quand on publie quelque chose, et ben il faut pouvoir justifier et il faut pouvoir rendre des comptes. Voilà, ça s'appelle la génération SAV. Donc aujourd'hui, exister, c'est publier. Oui. Mais c'est aussi assurer le SAV. SAV, c'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, quel que soit le média, vous allez avoir des commentaires neutres, positifs ou négatifs. Et il est attendu de votre part que vous réagissiez à ces commentaires. Sinon, vous êtes un con méprisant. Voilà.
Donc, je vois déjà Dan me regarder avec un regard lourd. Mais continue, Fibre, continue.
Alors ici, à 404, il y a deux clans. Il y a Mélissa, Lame et moi qui, on va dire, ignorent les commentaires.
Lame, il
va jusqu'à dire dans la bio, dans sa bio Twitter, je ne réponds pas.
Voilà. Pas de SAV pour moi.
Voilà. Sylvain, on se demande, il doit avoir deux vies, il répond à tout. Et Daz qui répond, mais bon.
Je suis un artisan.
Toujours.
Je laisse méchant en disant, il n'a pas beaucoup de réactions. Mais bon.
Il rabote ses tweets et ses SAV comme du bois.
Non, mais voilà. Il est même sur Google Street View, donc bon.
C'est vrai. Achievement unlocked, ouais.
Mais alors, c'est pas évident parce que déjà, c'est un investissement en temps.
Ouais.
Et c'est aussi un investissement moral parce que vous en prenez des critiques et parfois, même bien ciselées, bien haineuses, c'est difficile. Aujourd'hui, il est donc devenu normal d'attendre une interaction directe, personnalisée, rapide. Et même Justin Bieber, de temps en temps, il répond à un de ses fans.
Oh.
Et cette réponse, c'est tellement Dieu qui touche quelqu'un que ça devient immédiatement, genre c'est le prophète, et il y a 20 000 personnes qui le suivent. Et il dit, le 17 mai, j'étais...
Dans la bio, complètement.
Non, mais c'est ça. Et ils n'ont vécu, leur identité internet n'est que... Le fait d'avoir interagi avec Dieu.
Ah mais là c'est l'immaculé, elle savait. Là c'est vraiment le. C'est fou ce que Justin fait.
Mais il y a d'autres comptes, d'autres personnes, des célébrités entre guillemets, dont le fonds de commerce n'est que le SAV. Par exemple, c'est-à-dire Nicolas Sirkis, Indochine.
Oui.
Pas beaucoup d'actualité musicale.
Ils ont sorti un petit peu, mais il
est sur Twitter. Et quand il y a une mère de famille qui dit je me sens un peu seul ce soir, je réécoute tout indo. Nicolas Sirkis dit, met sa main numérique autour d'elle et dit, mais je suis avec toi, je pense à toi.
Putain.
Vous savez, on dit l'expression, quand on parle du diable, on envoie la queue. Oui. Patrick Sébastien,
quand on parle du loup.
Sur Twitter, si vous dites Patrick Sébastien va vous follower.
Non.
Extraordinaire.
C'est pas un robot.
Il dit, quand on parle de moi, je follow.
Donc là, on peut faire la test.
Ah oui, mais moi je l'ai fait, et je suis followé par Patrick Sébastien. Oui,
tu peux le mettre dans ta bio comme pour Justin Bieber, ça.
Ah non, mais ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas du tout.
Ça me l'a fait avec France O quand j'ai utilisé le mot Eurovision, moi.
Voilà. Ouais, carrément.
Chacun ses stars, désolé.
En plus, Daz pourra nous en parler. Le SAV, c'est le fonds de commerce de certaines personnes qui, pour accéder à la notoriété, essayent de clasher. C'est-à-dire, vous êtes un nobody. Vous prenez Lame, vous dites Lame, je déteste tes photos sur Instagram. Lame s'énerve.
Et bien, il répond pas.
Lame, ça marche pas.
Voilà. Lame répondra pas.
Mais si Lame répond,
assassin.
Si Lame répond, et ben ces dizaines de milliers de followers seront informés qu'un jour il a exercé sa colère contre quelqu'un, donc cette quelqu'un a peut-être un intérêt.
Ah, donc il y a une sorte d'exploitation un peu maligne du SAV.
Et voilà, c'est ça. Et comme on veut pas aboutir à ces situations un petit peu conflictuelles, difficiles à gérer, parfois le SAV. C'est une forme d'autocensure. C'est-à-dire, je ne vais pas parler des féministes parce que je sais que je vais me prendre 30 000 féministes dans la tête. Non, mais ça, c'est ça maintenant, c'est bien la mode.
Hein, ah bon, Fibre, toi, tu te clashes avec les féministes. Comment ça ?
Non, je me clash pas parce que justement, j'en parle pas. Mais un jour viendra où elles deviendront ringardes et là, on pourra parler tranquillement.
Elles sont déjà.
Mais elles le sont déjà, ringardes, les féministes.
Le mot féministe est ringard.
Alors, comment bien gérer la crise ? Comment bien gérer le SAV ? Je vais vous parler de quelqu'un dont je parle parce que je donne des cours de Twitter. Et je dis qui gère bien dans Twitter ? C'est Tanguy de Bouygues. Est-ce que vous connaissez Tanguy de Bouygues ?
Oui, je connais.
C'est une star. En fait, quand Xavier Niel a fait sa conférence en disant on va faire les abonnements à 2 euros là, un matin,
free, donc.
Toute la population française s'est retournée contre Orange, Bouygues et SFR en disant « Salaud, vous nous exploitiez depuis des années, regardez, free fait à 2 euros. »
On est des pigeons.
Voilà. Orange, ils ont fait du lame, ils ont rien dit.
Oh non, je veux pas être Orange, quoi.
SFR, ils ont fait du daz en disant « mais attendez, c'est des nazes. » Voilà. Et Tanguy de Bouygues, c'est-à-dire Sylvain, il a dit « Ah bah dis donc, ils sont vachement forts, free, j'aimerais bien voir ça. » Il a joué vachement cool, vachement sympa et tout le monde l'a vachement aimé. Il y a eu des fanpages Tanguy de Bouygues. Et la moralité de tout ça, c'est qu'il faut toujours agir avec détachement, humour, tranquillité, sérénité.
Ça, c'est ton premier conseil pour des smart SAV.
C'est mon seul conseil.
Ton seul conseil.
Humour, détachement.
Détente.
C'est pas grave, c'est que de l'Internet. Vous n'êtes pas en train de mourir, voilà.
L'Internet, c'est sérieux, mec.
Et tout va bien, voilà. Donc, vous, je suppose que dans votre entourage personnel, IRL ou en ligne, on vous pose des questions. Pourquoi ton Tumblr est triste, Mélissa ?
Il est pas triste.
Pourquoi tu vas plus sur Facebook, Daz ? Pourquoi tu réponds jamais sur Twitter, Lame ? Et pourquoi tu likes toutes les photos Instagram, Sylvain ? Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je réponds je vais sur Facebook. Voilà.
Que tu vas sur Facebook. Moi, je réponds à Twitter des fois indirectement.
Ouais,
des fois, ça fait faire des posts.
Quand
tu
te fais tweet, Jack. Oui,
j'envoie des emails. Mais c'est vrai que. Est-ce que aujourd'hui on peut juste poster des trucs comme j'essaie de le faire sur Twitter sans se retourner ? On est obligé de se retourner tout le temps pour dire ok j'ai posté une fois mais ça va m'engendrer 4 posts et surtout une attention en temps réel parce que en plus le SAV on est d'accord qu'il faut répondre quasiment en temps réel et on peut pas répondre 3 jours plus tard.
Oui tout à fait, ça m'est arrivé que il y a des gens qui passent
leur main. On peut se engueuler pour ça.
Ouais, le mec il t'engueule. Hein.
Non, c'est surtout si tu réponds 3 jours plus tard, il fait ah là là t'es vexé.
C'est qui vos followers là ?
Ouais putain c'est quoi ?
Ouais, les mecs, je leur réponds 3 jours plus tard, bah ils sont contents que je leur réponde.
Ouais, au pire, tu te prends un hashtag hold et puis voilà, basta.
Et puis je réponds TG, et puis c'est ça.
Hashtag TG. FDP.
TG, le débat FDP. Sur Internet.
Non, mais un exemple récent, c'est Lame. Un jour, il a fait une petite blague. Il a tweeté des choses qui n'étaient pas d'habitude. Blague. Tout le monde s'est inquiété. J'ai envoyé des SMS personnels.
Non, j'ai reçu des SMS de mes propres amis que je pensais qu'ils me connaissaient. Et j'ai dû faire du SAV, du coup. J'ai dû me justifier sans m'adresser à personne parce que je ne réponds pas. Mais j'ai dû me justifier. C'est dingue quand même.
Tu as fait un tweet.
Mais t'as le droit de pas répondre Lame sur Twitter. Mais moi personnellement, je pourrais pas parce que je trouve que c'est
ça enlève une partie du truc.
Ouais, c'est une des utilisations de Twitter aussi d'échanger avec les gens, quoi.
C'est à la limite de l'irrespect.
On reviendra sur ce débat sur Twitter plus tard. Hein,
chacun qui le service comme il veut. Mais moi, tu peux très bien le faire. Mais moi, ça me viendrait pas à l'esprit parce que c'est vraiment un truc super important. C'est rencontrer des gens, échanger, les connaître, débattre des fois.
Mais donc pour toi, c'est important de. On produit du contenu pour engager une conversation d'une certaine manière.
Bah, en partie, oui.
Mmh. Oui.
Tu fais des trucs pour que les gens réagissent, sinon t'écris sur un journal intime et puis tu le mets dans ta chambre. Si tu veux que personne le lise, non mais voilà, je veux dire,
tu écris tes tweets dans un sac plastique.
Twitter, elle aurait été une super tweeto.
Elle aurait été fan de Justin Bieber.
Voilà, aussi. Ça aurait été une Billy Burr, mais sur Twitter.
Non mais on peut aussi choisir de pas avoir envie de répondre, mais jamais. Et par exemple, les gens qui disent qui ont un blog pendant, je sais pas, 2 ans et qui, genre, pendant 6 mois, le mettent plus à jour et disent voilà. Ah là, je suis désolé, je suis plus là, machin, et qui font des blog posts entiers sur ça, ça m'exaspère. Et enfin, on produit pour Internet, ok, pour avoir des réactions, mais on n'est pas obligé de s'obliger systématiquement à répondre ou à être là.
Non, mais tu peux pas empêcher les gens d'avoir une notion de contrat moral.
Non, mais ça dépend de nous aussi, parce que toi, tu te dis, putain, qu'est-ce qui pousse les gens à écrire des billets de blog de 1000 signes pour dire, excusez-moi, je suis pas là. Il y a des gens, ok, qui vont critiquer, mais tu peux en faire un dans 6 mois, ils seront contents.
Et toi, mais si, en plus, ça fait 5 articles sur Nabila, ça, au moins.
Non, mais ça dépend de nous aussi, on se met une pression tout seul, parce que c'est des habitudes.
Les gens nous mettent la pression. Moi, mes amis se foutent de ma gueule parce que je ne réponds pas sur Twitter. C'est
parce
une forme
c'est
de
des...
pression comme une autre.
C'est
oui, mais ça, c'est quand même une posture assez spéciale sur Twitter. Je pense que t'es vraiment le seul à ne jamais, jamais.
Je pense que Fibre Tigre répond très peu sur Twitter.
Je réponds jamais. Et j'ai jamais retweeté ever.
Alors que je retweete beaucoup.
Jamais retweeté ever.
T'as pas retweeté sur Studio 404
Du coup, il y a aussi du SAV que j'appelle du SAV hypocrite. Je parlais avec un YouTuber célèbre qui fait beaucoup d'audience et qui me disait. j'ai peur de passer pour un mec qui est froid sur Twitter, alors que le mec a un nombre de followers absolument hallucinant. Et il disait, du coup, pour faire genre, d'une certaine manière, que j'ai lu et que j'aime bien mon follower, dès qu'il y a quelqu'un qui me retweet ou qui parle de moi ou qui essaie d'avoir mon attention, je favorise son tweet, comme ça la personne a une alerte. Et pour moi, c'est plus rapide que de répondre. J'ai pas le temps de répondre. Donc, je fais juste favoriser pour dire, oh ouais, je t'ai lu, je t'aime bien. C'est une sorte de SAV.
C'est le social grooming dont parlait.
C'est super social. Tout
ça fait. Enfin, non, mais on en arrive à un moment où les gens ont des sortes d'artifices pour assurer une sorte de service minimum, de SAV minimum quand même. Donc,
on n'a pas quand le temps, tout simplement. Non, mais quand c'est un fonds de commerce, on parle de service après-vente. Quand c'est un fonds de commerce, bah oui, tu fournis le service, quoi. Moi, mais je suis pas un produit, donc j'estime que j'ai pas de service après-vente.
C'est un produit. Non, mais donc, du coup, vous êtes pour ou contre cette génération SAV? Est-ce que vous dites que c'est une obligation et c'est une sorte d'une forme de politesse et d'urbanité, de civilité sur Internet?
Moi, je dis que ça dépend du format. Ça dépend du réseau. Par exemple, le SAV sur Instagram, on s'en tape.
Ah ben moi, par exemple, j'adore répondre sur Instagram.
Mais oui, mais parce que toi, t'es toujours en contrepoint
de tout. Je suis à la pointe de la communication.
Moi, je pense que si l'audience, elle préfère avoir un bon tweet qu'une réponse à la con. Donc, je privilégie un bon tweet.
Attends, y a des mecs
là, ils pensent comme un libriste. Ils pensent que si le produit est bon, ça va marcher. Mais je pense que
non, c'est parce que.
Ils sont hyper contents d'avoir une conversation avec toi.
Ouais, mais si tu réponds à une personne, t'as satisfait une personne et t'en as fait chez 1000 autres, tu vois.
Tu peux te tromper 1000 fois. Parce que...
tu peux répéter une
après,
fois.
Après, c'est un peu ta ligne éditoriale. Excuse-moi de te comparer à cette personne, mais t'as un petit peu une ligne à la l'endive, qui est de faire des mots d'esprit. Et tu es content quand tu as des retweets.
Ouais, c'est tout.
C'est un peu ça. Ouais. Tu es un émetteur, tu es un média.
Bon, déjà, t'as une ligne éditoriale déjà
moi,
à la base.
Moi, voilà. sur Twitter, je suis Sylvain Palais, la personne. Et je partage des liens parce que j'aime bien partager des liens. Et quand il y a des mecs qui réagissent en me disant « Ah, et ça, tu l'as vu, machin », je suis content et puis on en parle.
Ouais. Et pour toi, non seulement c'est pas une contrainte, mais en plus, c'est un facteur de succès, quoi.
Ouais, je réfléchis pas forcément facteur succès, mais ça me fait plaisir. Si c'est ça que tu veux dire, ça me fait plaisir.
Provoquer l'échange, moi, ça me fait plaisir aussi. Mais je pense que c'est possible aussi parce qu'on a peut-être pas non plus 500 millions de followers.
Il y a peut-être une taille critique.
Ouais, je pense que c'est ça aussi.
Ok. Et dernier point par rapport à ce SAV sur lequel j'aimerais que vous interveniez. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un communication faux pas, comme tu m'en parlais tout à l'heure, Fibrotique? Comment on fait du damage control de la com de crise, justement? Parce que c'est aussi une partie du SAV. Qu'est-ce qui se passe quand on a produit son propre revenu de la redoute ou qu'il faut rattraper un peu les choses et recoller les morceaux cassés? Est-ce que
par exemple,
damage control?
C'est intéressant parce que Christine Boutin a fait un tweet,
Christine, c'est du nuclear launch control.
Un suicide terrible et
d'ailleurs faut que je la retweete.
Voilà. Non mais en fait surtout ce qu'il faut faire c'est justement ne rien dire. Elle s'est justifiée dans le journal du dimanche, non, un truc comme ça.
Elle a écrit un post de blog sur son blog, le site du Parti chrétien démocrate.
Il faut absolument ne rien dire parce que sur Twitter, le réseau social, tout est un flux et tu es très vite oublié. Et si tu entretiens
le flux, elle est dans les 13 ans, en fait. Oui, c'est quand même assez important. Mais tu penses que tu peux générer le fameux effet stressant qui fait que parler de quelque chose crée finalement son poids.
C'est impossible d'arrêter un feu. Il faut arrêter de l'alimenter, c'est tout.
D'accord. Donc pour toi, il faut juste faire la politique d'autruche et laisser le flux emporter tout ça. Quoi.
Exactement.
Là, toi, t'es pas d'accord, toi. Qu'est-ce qui se passe si tu merdes, par exemple? Ça t'est déjà arrivé de déraper sans faire exprès, de devoir attraper un peu?
Non.
Tu ne dérapes jamais, toi.
C'est pas que je dérape pas, c'est que je réfléchis avant de parler, en fait.
Non mais à la grande époque du journal du Mac où parfois tu t'écharnais un peu avec les lecteurs.
Ah complètement ouais.
Où tu taquinais quand même méchamment les lecteurs en trollant les fans d'Apple, etc.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait une forme de damage control ou pas du tout, toi?
Absolument pas, j'en avais un peu rien à faire dans la mesure où au contraire ça provoque des réactions et j'arrive pas à concevoir en fait que des gens puissent lire une publication sur un sujet qui les débecte. Ou au contraire, qui va pas dans leur sens ou machin, etc. C'est-à-dire que ces gens, pour moi, se font mal, un peu comme quand moi je vais sur F2 Souche, par exemple. Et non, j'ai zéro damage control parce que le corps du message initial était pas faux. Donc en fait, c'est juste que les gens ils peuvent mal le prendre, mais je veux dire, ça se tient quand même. Il y avait une réflexion, etc. C'était pas du troll pour troller, quoi.
Ouais.
Et donc à partir de là, tu provoques les réactions, les gens discutent, ils s'écharpent, machin, etc. Mais moi, je me suis jamais excusé en disant excusez-moi, en fait, j'avais mal évoqué le truc ou j'avais mal pensé le truc. J'en ai rien à foutre.
Bon, date étant intouchable, parce que toi, Mélissa ou toi, Sylvain, vous avez déjà fait du damage control, du SAV sur une bourde ou un communication faux pas?
Jamais de bourde, parce que le maître mot de la com de crise, c'est pas forcément de faire le truche où il y a pas de solution miracle, c'est la réactivité.
Ouais.
Et un tweet vite effacé, c'est un tweet vite oublié. Et c'est pour ça que tu parlais de temps que je passe à répondre, etc. Mais moi, j'utilise des clients Twitter à la pointe de la technologie, où je fonctionne avec 5 colonnes, tout avec des raccourcis clavier.
Oui, mais le communication faux pas, tu évalues le faux pas à la réaction. Donc en fait, le mal est fait.
Oui, c'est déjà trop tard.
Non, tu peux réaliser quand tu publies un tweet trop vite et tu peux réaliser.
Oui, mais c'est pas un communication faux pas. C'est-à-dire que c'est toi qui t'auto-censure, mais les gens n'ont pas eu le temps de réagir, en fait.
Ouais.
Alors que le communication faux pas, c'est que c'est avéré, que le truc est salué, il y a des screenshots, et voilà. Quoi,
D'ailleurs, mon client Twitter affiche quand vous supprimez des tweets. C'est-à-dire qu'il laisse le tweet et il met un petit truc à côté pour dire il l'a supprimé. Donc je vous ai à l'œil, je vous surveille.
Et pour finir, toi, Mélissa, t'as déjà fait un communication faux pas. T'as déjà dû faire la com de crise par rapport à une gaffe que t'aurais faite.
Bah,
où tu t'en t'es obligé de.
J'ai rien dit.
Donc pareil, donc, toi tu dis rien, tu laisses passer.
Mélissa et Fibrotique sont d'accord.
Ouais, ouais.
Incroyable, c'est pas mal.
On parle j'ai rien dit, mais j'échange des mails parfois, si on me demande.
Ah, quand même.
Si donc, on m'envoie un mail, donc, je réponds au mail.
Petit SAV personnel.
J'estime qu'il faut répondre au mail.
Voilà, ça sera, on finira là-dessus sur Mélissa avec le SAV à l'ancienne. Un petit mail, c'est mignon.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'était le 8e numéro de Studio 404. Mes chroniqueurs m'ont déjà tous quitté. Ils ont enlevé le flight mode de leur smartphone. Ils sont déjà en train de regarder leurs likes, leurs dernières news. Je me sens donc seul parmi les gens. Pour vous annoncer une bonne nouvelle, le 20 juin, Fibre Tigre fête son anniversaire. Et Fibre Tigre, bouge-toi les oreilles.
Je suis vieux.
Ouais, voilà, tu es vieux. Bouge-toi les oreilles. Nous allons organiser son anniversaire avec vous. Voilà, ce sera la deuxième soirée 404. Ce sera un thème. Ce sera la surprise partie, la boom de Fibre Tigre. Est-ce qu'on passera du Daft Punk? Je ne sais pas. Est-ce qu'on passera du After Punk? Plus sûrement. Est-ce qu'il y aura des surprises? On espère. Est-ce que ce sera au café d'initié? On ne sait pas encore. Un pique-nique dans un cinéma de manière sauvage sur des fixies. On va voir. En tout cas, comme dirait Daz, sauvez la date. Le 20 juin. 20 juin au soir, c'est la surprise partie de Fibre. Préparez vos chapeaux pointus et vos turlus tutus. On se retrouve très vite. Ciao.
Bah alors, tu viens plus au soirée 404?
Hey marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.